Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimons, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je voudrais quand même dire que même si ça semblait un peu poussé, c'était pas si caricatural que ça. Parce qu'on a croisé, je vous promets, j'ai croisé des gamins qui étaient très ingénieux dans leur désir de détruire. Et ils inventaient des choses, on se demande où vous allez chercher ça. Mais en tout cas, ils les inventaient. Et je crois qu'il en existe effectivement, malheureusement, des comme ça. Alors, tous les parents ne sont pas aussi laxistes. Fort heureusement, grâce à Dieu, on pourrait dire. Mais des fois, ça arrive que l'enfant est complètement livré à lui-même et il fait vraiment n'importe quoi. Alors, vous l'avez compris, hein? Le but de ce séminaire, c'est de repartir avec des pistes de réflexion, des pistes de travail. On va essayer de mettre en pratique dans nos maisons. J'ai bien essayé, parce que on est tous faits du même bois. Et j'oserais dire que c'est pas parce qu'on a le micro et qu'on parle qu'on est meilleur que vous. On apprend autant que vous. Il y a des choses qu'on a eu la grâce d'apprendre et puis qu'on peut redonner. Il y en a d'autres qu'on doit encore apprendre. Mais apprendre, ça fait partie de notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu. On n'a jamais tout compris du premier coup. Et il reste encore pas mal à apprendre. On a tous fait des erreurs. On en fera encore. Ça, c'est le lot de tout homme, de toute femme, je dirais, de tout le monde. Mais il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et il y a aussi ce phénomène de culpabilité lorsqu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs dans lesquelles il ne faut surtout pas entrer. Parce que la culpabilité est destructrice. Et ça n'arrangera rien du tout. Par contre, on va essayer de voir quels sont les endroits où on a fait des erreurs. Et puis, on va travailler. Vous allez souvent m'entendre parler de travail. Parce que être parent, c'est un travail. On est au travail, mes amis. Du moment où on a décidé de mettre un enfant au monde, tout commence. Tout est à faire. Et je dirais que c'est terminé le jour où il s'envole du nid familial. Mais ça n'est qu'à moitié terminé parce que je crois qu'après on a un travail, je crois dans le sang, j'en suis sûre, un travail dans la prière à continuer. Il faut jamais lâcher le morceau. Il faut le tenir, on tient fort et on continue. On continue. En tout cas, là, j'ai démarré par une première partie où je vais plus partager des généralités, des choses qu'on connaît certainement, qu'on a déjà entendues, mais qu'il est bon de se rappeler, qu'il est bon de remettre en place pour aller plus loin. Jean-Claude, après, entrera dans une partie un peu plus pratique, et moi, ce soir, aussi, j'y reviendrai dans une partie un peu plus pratique. Je vais commencer par quelques statistiques. En 98, il y avait 42 divorces pour 100 mariages, contre 12 divorces en 70, toujours pour 100 mariages. C'est parlant, hein? Il y a des chiffres qu'on peut donner qui parlent d'eux-mêmes, ça se passe de tout commentaire. L'âge moyen des divorcés chez les hommes est de 34 ans, chez les femmes de 30 ans. En 1960, un ménage sur 10 était dirigé par une femme seule. En 98, 4 ménages sur 10 sont dirigés par une femme seule. J'ai bien peur que les chiffres aient augmenté depuis. En l'an 2001, plus de 1 million d'adolescentes sont devenues enceintes, en dehors des liens sacrés du mariage. De ce 1 million d'adolescentes, 500 000 vont choisir l'avortement comme solution. De toutes les adolescentes de 14 ans, aujourd'hui, plus de 40% vont être enceintes avant l'âge de 19 ans. 60% des jeunes qui fréquentent une assemblée sont actifs sexuellement. Toutes les 66% de lycéens ont déjà consommé des drogues illicites. Alors, c'est pas des chiffres qu'on a pris comme ça au hasard. C'est dans Francophonie. Ce sont des chiffres qui sont vraiment justifiés. On prend pas des chiffres n'importe où, hein. Donc, 66% des lycéens ont déjà consommé des drogues illicites. Toutes les 78 secondes, un jeune fait une tentative de suicide. Le suicide en France touche environ 150 000 personnes par année. 12 000 en meurent. C'est la première cause de mortalité chez les 25 à 34 ans. C'est énorme. Et la deuxième chez les adolescents après les accidents. Les jeunes ne supportent plus les conflits de la famille. La cause principale, c'est le couple divisé. Satan veut d'abord détruire la relation entre l'homme et la femme. S'il n'y arrive pas, ensuite, il détruit la relation entre les enfants et les parents. 95% des jeunes de familles monoparentales, de familles divorcées, ont comme plus grand cri « Papa n'avait pas de temps pour moi ». C'est la plus grande des déchirures. Je vais vous dire que ce cri, c'est un petit peu ce qu'on partageait tout à l'heure, ce cri, aujourd'hui, la société commence à l'entendre. Et c'est pour ça qu'il y a un revirement, on dit, un léger revirement qui se fait, où les papas commencent à prendre un peu plus de place dans la maison, où les parents commencent à prendre des décisions pour faire des choses avec leurs enfants. Mais, si Dieu n'y est pas, c'est un peu la manière dont le débat s'est soldé ce matin. Si Dieu n'y est pas, on va vers quoi? Vers quoi? Alors, il y a toutes sortes de solutions, et puis la première qui se présente, on le sait, c'est tout un mouvement New Age qui est là, et qui commence à travailler pour éduquer les familles. Mais Dieu n'y sera pas. Donc, il y aura toujours ce trou béant de cette place où Dieu ne sera pas là. Le trou restera béant. Il n'y a que lui qui pourra le remplacer. Il n'y a que lui qui pourra le boucher, comme on dit, ce trou. Personne d'autre. Et une part que Dieu seul peut prendre. Alors, Proverbe 22, verset 6. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, les parents, ils peuvent faire de leur mieux. Et on le sait. On va essayer de donner le meilleur. On va essayer de construire leur vie, de les aider à aller de l'avant. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours 100% de réussite. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein, vous le savez. On peut avoir la meilleure, là on va prendre... c'est qui le meilleur chef en ce moment? Je sais même plus, c'est pas grave. On va prendre tous les ingrédients nommés, tout mettre en œuvre pour travailler à faire un plat bien précis. On va regarder, veiller à la moindre pincée, on va veiller à la moindre, au temps de cuisson, etc., etc. Et puis des fois, on n'a pas le même goût. C'est pareil. Avec nos enfants, il y a des fois quelque chose qui rippe quelque part. Mais on va pas se taper sur la tête, c'est pas le but. Dans la mesure où on a cette position, on garde cette position de parent, qu'on continue de prier, qu'on continue de montrer un exemple, parce que là, il y a une clé, d'être un exemple pour nos enfants, là, un jour, on voit un résultat. Dieu nous demande d'être des témoins, d'être une lettre lue, mais les premiers qui doivent lire cette lettre, ce sont nos enfants. Ça sert à rien de vouloir montrer Dieu à ceux de l'extérieur si dans nos maisons, on n'est pas capable, ou on ne cherche pas, ou on se laisse aller, on ne cherche pas à être cette lettre lu par nos enfants, lu de la part de Dieu. Un exemple, avec toutes les faiblesses qu'on peut avoir, hein. Attention, personne n'est parfait. Mais lorsqu'on se trompe, lorsqu'on est dans un état de faiblesse, nos enfants, on doit être capable de le leur dire. On doit être capable, on doit être transparent. On doit être transparent. En tout cas, tout ce que nous, on va pouvoir planter dans le cœur de l'enfant, tout au long où il sera avec nous, tout cela, un jour ou l'autre, ressortira. Tout cela, un jour ou l'autre, portera du fruit. Et c'est ça qui est important, mes amis. Dernièrement, on avait un de nos amis dont l'un des enfants a mal viré. Pourtant, c'est un homme qui, c'est un couple qui prie, qui a essayé de donner le meilleur à cet enfant. Mais quelque part, il y a quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui a ripé. Et cet enfant, ben, il vit n'importe quoi. Et on les a encouragés, on leur a dit, mais il y a une chose qui est certaine. C'est que tout ce que vous avez planté dans le cœur de cet enfant, un jour, va porter du fruit. Un jour, ça va germer. Et un jour, un arbre va pousser. Et un jour, il reviendra. Il reviendra à Christ et il reviendra à une vie, entre guillemets, pour laquelle on prie. Et on les a encouragés en leur disant, mais tu sais, finalement, ton enfant, il prépare son témoignage, tout simplement. Alors c'est vrai, nous, en tant que parents, on a envie de dire, mais ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, on a envie qu'ils le vivent. Si on est passé par des travers dans nos vies, si on est passé par des souffrances, on n'a pas envie qu'ils le vivent. Et ça, c'est un peu le cri de nos cœurs. Et des fois, c'est ce que je disais à mes enfants, mais je te dis ça, parce que si tu vas dans cette voie-là, voilà ce qui t'attend. Je l'ai vécu, j'en ai payé les pots cassés, j'ai pas envie de te les voir, de voir vivre cette chose-là. Mais l'enfant, à un moment donné, c'est lui qui doit faire son choix. Nous, notre travail, c'est de mettre dans leur cœur le dépôt que Dieu veut mettre. À la mesure de nos capacités, à la mesure de ce qu'on comprend, à la mesure de ce qu'on sait. Donc, c'est un travail. Comme je vous l'ai dit, vous allez souvent m'entendre parler de travail, parce que c'est une réalité. Une des difficultés que rencontrent les parents, c'est de trouver une façon équilibrée de communiquer avec les enfants. Tout en considérant que on communique avec nos enfants, mais qu'on reste toujours l'autorité. La première autorité que l'enfant va rencontrer dans sa vie, c'est celle des parents. Donc, elle doit toujours rester là, aussi longtemps que l'enfant est sous notre toit. Là, je parle de l'enfant qu'on éduque, hein, d'accord? Souvent, on reproduit sur nos enfants ce que nous avons nous-mêmes reçu, soit parce qu'on pense que on peut pas faire autrement, puis de toute façon on ne sait pas faire autrement. Si on n'a pas été réellement aimé, on a du mal à aimer réellement. Si on a été battu, alors je veux pas, comprenez bien ce que je veux dire. Je suis pas d'accord avec ces gens qui font du mal aux enfants. Pas du tout d'accord. On est bien clair, hein. Mais souvent, le problème des hommes ou des femmes qui font du mal à leurs enfants, c'est ils reproduisent tout simplement ce que eux ont vécu. Et ils ne savent pas communiquer autrement. Là, il y a besoin d'une visitation de Dieu, d'une guérison de Dieu. Il y a besoin même de délivrance. Ceci dit, je ne les excuse pas. D'accord? Aujourd'hui, un violeur, s'il est arrêté, c'est pas le but de l'excuser. S'il doit faire de la prison, qu'il en fasse. C'est pas un problème. Mais, les trois quarts du temps, ces gens-là ne font que reproduire ce qu'ils ont vécu. La plupart des jeunes dont on a pu s'occuper et qui avaient des difficultés se plaignaient de ne pas être aimés par leurs parents. Comme on connaissait les parents, on se disait, c'est pas tout à fait ça. Parce que les parents, quand on parlait avec eux, on se rendait bien compte qu'ils les aimaient. Seulement, ces personnes eux-mêmes avaient tellement été en manque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'arrivaient pas à redonner. Ils n'arrivaient pas à donner d'amour. Malheureusement, le jeune qui ne se sent pas aimé, c'est celui qui va faire le plus de bêtises pour qu'on s'occupe de lui. Il y a un cri dans son cœur. Il va démontrer qu'il existe. Et il y a ce cri qui monte. et il se révèle par ses attitudes, par ses comportements souvent pénibles, désastreux. Encore des statistiques. Alors là, on va parler de statistiques où l'homme a décidé d'être un père selon le cœur de Dieu. Oh, alors c'est sûr, là, ça provient de familles unies. 95% des garçons ont un père qui leur dit « je t'aime ». 95% des filles disent avoir des parents qui les encouragent et qui les félicitent, pas simplement qui les critiquent. Il faut toujours un équilibre. 90% ont des parents qui jouent avec eux, qui font des choses avec leurs enfants. Alors on peut faire toutes sortes de choses, hein. Lorsqu'on part en vacances, on peut avoir des tas d'activités ensemble, ou alors on peut regarder un bon film, ou alors, etc., etc. Je veux dire, il faut voir aussi quels sont les goûts de l'enfant. On ne va pas faire que des choses au goût des parents. Alors, on peut parler de ce qu'on peut faire ensemble. 94% ont des parents qui assistent à leur activité athlétique ou artistique. Père est là quand il y a un événement important pour l'enfant. Une fois, j'ai parlé avec une petite fille qui pleurait. Elle pleurait parce qu'elle faisait un spectacle de danse. Mais papa n'a pas eu le temps d'y aller. En fait, il n'a pas eu envie d'y aller parce qu'il avait autre chose à faire. Puis après tout, la danse, c'est pas son domaine. Donc, maman y va, tout va bien. Alors, c'est sûr que si papa se trouve en déplacement pour son travail à l'autre bout de la France, il va pas revenir que pour la soirée. Mais dans la mesure où il est à côté, c'est là où c'est un peu plus gênant. Parce que l'enfant ne trouve pas d'excuses à son papa. Et il y a une souffrance dans son cœur qui... 97% disent recevoir régulièrement des accolades de leur père. Leur capital affectif est régulièrement rempli et ils débordent sur les autres. Alors, c'est sûr que ça fait des enfants qui sont des fois, on pourrait dire, envahissants. Moi, j'ai pour expérience que ce soit mes petits-enfants ou mon fils. Ce sont des gamins dont les parents, le père a dit « je t'aime ». Ce sont des enfants qu'on prend souvent dans nos bras. Alors, ils débordent. Ils débordent. Quand quelqu'un arrive, qu'ils ont envie de leur dire bonjour, c'est souvent intempestif. Ils arrivent en courant, ils se jettent dans les bras de la personne. Moi, j'ai mon fils, quand il veut me faire un bisou ou un câlin, il m'écrase dans tous les sens, que je suis obligée de lui dire « arrête, tu me fais mal ». Mais pour lui, c'est ce capital affectif dont on parle là, qui démontre. Il démontre et ils n'ont pas de réserve. Ils n'ont pas de réserve. Et puis, c'est bien. C'est bien. Ces enfants, ils sont heureux. 89% ont des souvenirs d'activités qu'ils ont fait avec leur père et 80% de ces jeunes sont contre le sexe avant le mariage et n'ont pas d'expérience avec la drogue et l'alcool. Donc vous voyez que là le pourcentage est un peu plus bas parce que des fois c'est l'un des domaines où ça arrive un peu. Mais quand même, il y a moins de dégâts dans ces familles où les parents, où il y a une unité qui est là. Moi, je me souviens, il y a quelque temps de ça, on discutait avec ma fille Sandrine, l'aînée, et elle disait, voilà, maintenant, je me souviens de ce qu'on a vécu quand j'étais jeune. Et c'est vrai, une année, c'était tellement fort ce qu'on vivait sur le plan familial qu'on n'avait même pas envie de voir personne. On était dans une caravane au bord de la mer, et puis... Tous les quatre, Nathanaël n'était pas encore né puisque j'étais enceinte. Et tous les quatre, on était dans cette caravane, on faisait des jeux, on se faisait plaisir avec des petits plats qu'on avait envie de manger. Un coup, c'était l'un qui décidait, un coup, c'était l'autre. Et puis, le soir, on sortait pour aller, il y avait sur le bord de la mer, il y avait une fête foraine, là, avec des manèges, tout ça. Mais très vite, on se disait, oh, et si on rentrait, on va faire ce jeu ensemble. Et c'est drôle parce qu'on a passé 15 jours ou quasiment, on a fait le vide autour de nous. Les enfants réclamaient ça et nous, on était heureux de vivre ça avec eux. C'est important parce que 15 ans après, ma fille m'en parlait Elle me disait, mais ça m'a construit intérieurement. Ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Et ce que j'ai vécu là, c'est tellement fort, j'ai envie de le vivre avec mes enfants. Donc là, ça fait boule de neige, hein? Ça fait boule de neige. C'est à nous donc de travailler à... Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui nous établit en tant que parents. C'est Dieu qui nous établit en tant que parents sur nos enfants. Et on a besoin de réaliser que Dieu nous a rendus capables de les éduquer, capables de vivre des choses avec eux. Cette capacité, c'est à nous d'aller la chercher. La chercher comment? Ben, tout simplement en priant, hein. En priant, et puis souvent en lisant la Bible aussi, parce qu'il y a des choses à l'intérieur qui nous construisent et qui nous permettent d'aller plus loin. Puis aussi en cherchant à être enseigné. Nous, ce qui nous a motivé au départ de notre conversion, ce qui nous a poussé toujours, c'est ce désir d'être enseigné. Ce désir de comprendre pourquoi, le comment des choses et de les mettre en pratique. Alors on allait souvent trouver notre pasteur et puis on parlait avec lui et puis quand il faisait aussi, quand il enseignait par rapport à ça, on buvait ses enseignements et on avait besoin de les vivre après. Et le fait de le travailler, de le vivre, ça nous a permis de sortir de pas mal de cas où on était pas très clair. On va parler de l'enfant dans l'histoire. Alors l'enfant dans le monde ancien, il a eu pendant très longtemps une condition d'esclave, de serviteur. Et vous savez, à ce moment où tout le monde attendait un Messie, chez les Juifs, ils attendaient un Messie qui allait venir les délivrer, alors ils attendaient un chef d'armée, un homme, un grand gaillard, avec toute une armée qui allait le suivre. Eh ben non, c'est pas ça qui est arrivé, hein, vous l'avez compris, où je veux en venir. C'est Christ dans une condition d'enfant qui est venu sur terre. Et il est venu dans cette société où l'enfant n'avait pas droit à la parole, où l'enfant n'était pas considéré comme une personne. Christ est venu au milieu de cette société-là. C'est lui le Messie, le libérateur attendu. C'est un enfant. Et il est venu dans cette condition d'enfant, et il n'est pas né dans un milieu riche, il est né dans un milieu pauvre, dans un lieu, ce qu'il y a de plus démuni, une crèche. Mais Christ, le Messie, était un enfant, le grand libérateur. Et c'est ainsi que Christ a vécu cette condition d'enfant, d'esclave, de celui qui n'a pas le droit à la parole, au milieu de ceux qui n'avaient pas le droit à la parole. Il est venu comme un bébé pauvre et dépendant. Et comme le Nouveau Testament commence par la restauration de la place de l'enfant au travers de Christ, il faut savoir que l'Ancien Testament se termine par une promesse. Et cette promesse, on la trouve dans Malachie 3, verset 24. L'Éternel ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, là, il y a un défi. L'Éternel ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Alors, j'aimerais juste soulever une petite chose, c'est qu'il y a un ordre à tout ça. C'est d'abord, l'Éternel va ramener le cœur des pères à leurs fils. D'abord, en tout premier. Parce que les pères vont revenir vers le cœur des fils. Alors, le cœur des fils vont revenir vers le cœur des pères. Alors là, j'aimerais élargir un petit peu le phénomène. C'est qu'il est question à la fois des pères, père et mère. Il est question des parents. La famille, il y a le père, il y a la mère. Il est question des parents. Et les parents vont revenir à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils vont construire, ils vont travailler. Ils vont travailler à recommuniquer avec eux. Et parce qu'il y a cette communion qui s'est établie, alors les enfants vont revenir dans cette communion vers leur père, vers leurs parents. Mais les pères ont un rôle énorme à jouer. Il faut que les pères reviennent auprès des enfants. Et donc c'est vraiment à nous parents, de donner les moyens aux enfants d'entrer dans cette promesse. Pourquoi ? parce que l'Éternel ramènera le cœur des pères aux fils. C'est à nous de faire le premier pas, c'est à nous de faire ce travail. Et ça suivra. On va pas demander à l'enfant de faire le travail. C'est impossible. C'est pas lui qui doit le faire. Ce sont toujours les parents. Donc avoir des enfants, avoir les enfants, alors c'est vrai qu'on se marie, on s'aime, et on a envie d'avoir des enfants. C'est dans le cœur de l'homme. Mais c'est d'abord le désir de Dieu. Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Ça, c'est une parole de Dieu. C'est lui qui nous l'a dit. C'est le désir de Dieu. Imaginez un monde où il n'y a plus d'enfants. D'abord, au bout d'un certain temps, il n'y aura plus que des personnes âgées. Alors, j'aime les personnes âgées. Mais d'avoir du sang neuf, ça fait du bien, hein, au milieu de nous. Et puis, s'il n'y a plus d'enfants, on va tout droit vers la mort. Il n'y aura plus personne pour la suite. Avoir des enfants, se multiplier, c'est pour la vie. C'est pour que la vie continue. Et ça, c'est dans le cœur de l'homme, mais c'est d'abord le désir de Dieu. Et l'enfant, c'est une réelle bénédiction. C'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme. C'est le résultat d'un amour. C'est le résultat d'un amour qui devient le centre. Le centre d'une famille, le centre d'une vie, c'est l'objet d'un amour inconditionnel. Inconditionnel. Quand un enfant arrive, fille ou garçon, qu'il ait les yeux bleus, les yeux, pas rouges, non, verts, marron, tout ce que vous voulez, qu'il soit blond, grand, petit, mais ça devient notre merveille. Ah, quand je suis allée voir mon petit Benjamin, quand il est né, première chose que je l'ai vu, là, aux yeux. C'est notre merveille. Pas mon enfant, ce n'est que mon petit enfant. Mais, quelque part, il est mon héritage. Et le fait dès que je l'ai vu, pour moi, bon, vous l'avez compris, c'est le plus beau. Hein. Bien sûr, il y a aussi Michael, il y a Léana, il y a Timothée, puis il y a lui maintenant, et puis il y a eu mes enfants, mais dans mon cœur, et puis on est tous pareils. On va pas se voiler la face. Ah, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. C'est vraiment une bénédiction. Puis on les aime. Et puis, je crois qu'il aurait le nez un peu déplacé. C'est pas grave, hein. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est de moi. C'est de moi. Alors, ça, c'est le côté merveilleux de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est quelque chose à développer, à encourager. Nous devons aimer nos enfants de façon inconditionnelle. Malheureusement, dans le monde actuel, et pour beaucoup, l'enfant est devenu un boulet. Et puis, lorsqu'on écoute les actualités, alors ces choses-là ont toujours existé, mais il y a peut-être une multiplication en ce moment. Il y a quelque chose qui est comme désaxé dans l'air du temps. Et cet enfant qui normalement doit être là comme un être voulu de Dieu, un être à aimer, devient un boulet et devient même un objet de dérèglement sexuel. Et ça, c'est le côté drame, hein, de pas mal d'actualités en ce moment. Et on doit prier pour que ces choses-là cessent. On a du travail, hein. Pour les nôtres, mais aussi pour tout ce qui se passe autour. On peut pas rester insensible à ce phénomène-là. On doit prier pour que ces choses-là soient mises à la lumière, non pas pour qu'on le sache, mais pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Ça, c'est un cri du cœur. Seigneur, ces choses-là, ça suffit. On a besoin de toi. On a besoin que tu viennes transformer ces choses-là. On a besoin que ton amour vienne faire éclater les jougs qui sont sur ces personnes qui font ces choses-là. Ouais, il y aurait de quoi dire, là. Genèse 33, verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. Alors là, c'est Jacob qui va rejoindre son frère Ésaü, qu'il n'avait pas vu depuis pas mal de temps. Et bien sûr, quand il est allé pour le retrouver, il est parti avec toute sa famille. Ses femmes, parce qu'à l'époque il y en avait plusieurs, donc ses femmes, ses enfants. Et lorsqu'il arrive, Jacob lui pose la question, mais qui sont ceux-là? Ce sont ceux que dans sa grâce, Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que les enfants sont une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et des fois, dans mes entrailles, il y a des choses qui se tordent parce que j'entends des discussions, mais je me dis, Seigneur, et je parle de discussions de chrétiens, hein, pas forcément de gens qui ne connaissent pas Dieu, hein, d'accord? Des gens qui sont censés connaître la pensée de Dieu. Et ces gens-là qui parlent de certains enfants en disant, oh, mais qu'est-ce qu'il est venu embêter le monde, celui-là? Ou alors, de leurs pauvres enfants, quelle idée que j'ai eue d'avoir ce gamin. Faut faire attention à ce qu'on dit. Dernièrement, on me rapportait une discussion, on me disait, tu sais, il parlait de son enfant en disant, mais c'est un poison. Il aurait mieux fait de rester là où il était. Là, c'est question d'un parent qui récupère un enfant et qui traite cet enfant de poison parce que finalement, quand il était là-bas de l'autre côté, il s'en occupait pas et il n'avait pas de problème avec. Mais aujourd'hui, il faut qu'il éduque cet enfant, il faut qu'il s'en occupe parce que l'enfant a demandé à être avec lui. Et cette personne dit, mais c'est un poison, j'avais pas besoin de ça, j'avais autre chose à vivre. Attention, ce poison-là, cette parole qui a été dite, qui a été communiquée, c'est une parole de destruction, c'est une parole de malédiction. Est-ce qu'il y a à la base une grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a à la base doit être pris comme une grâce de Dieu? Devient malédiction. Et ces choses-là sont construites aussi par des paroles. La parole est créatrice. Soit elle crée du bonheur, soit elle crée la mort. Soit elle crée la vie, soit elle crée la mort. Il n'y a pas de choses entre, hein, d'accord? Ça, c'est comme avec Christ. Soit tu es sauvé parce que tu as choisi Christ, soit tu n'es pas sauvé parce que pour l'instant, tu n'as pas choisi de lui appartenir. Il y a Dieu, il y a le diable. Il y a le bien, il y a le mal. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Et nos paroles, elles construisent soit la vie, soit la mort. Psaume 127, verset 3. Voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Nos enfants sont un héritage. Ils sont un héritage, c'est un prolongement de nous-mêmes. Ils sont la vie, c'est la prolongation de la vie. Malheureusement, on peut réaliser de plus en plus, en tout cas, plus on avance dans ce monde, plus on réalise que il y a un combat, il y a un défi. Du jour où ils naissent, je dirais même mieux, du jour où ils sont créés, là, il y a un défi. Le diable a décidé de les pervertir. Et il veut récupérer cet héritage que Dieu nous donne. Il veut le récupérer. Et là, il y a un combat. Il y a un combat. Nous devons mener dans la prière de A à Z. C'est un travail. Une fois de plus. C'est vraiment pas un terrain à négliger. On peut pas laisser faire les choses. Une fois, en discutant avec un parent, il disait, mais il faut laisser faire. Un jour, il choisira Dieu ou le diable. D'accord? Mais est-ce que toi, tu l'enseignes? Ah non, je veux surtout pas lui en mettre plein la tête. Ça, c'est du bourrage de crâne. Je vais poser la question. D'après toi, cet enfant, est-ce que le diable va lui laisser le choix? On peut se poser la question. Est-ce que le diable laisse le choix à nos enfants de choisir librement Dieu? De choisir librement la vie? Non. Il va pas les épargner. Et la séduction pour nos enfants, elle est terrible. Et moi, des fois, je crie à Dieu pour nos jeunes, pour nos enfants, parce que c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux. Et il faut qu'on arrête. Des fois, j'entends des discussions où on commence à discuter sur les jeunes, entendre des critiques sur les jeunes. Ça fait des choses qu'il faut qu'on arrête. Notre travail, c'est pas de les critiquer. Il y a un mal-être en eux. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. On a besoin de les porter dans la prière pour qu'ils viennent à Dieu. Les porter dans la prière, c'est bien plus constructif que de les critiquer. En tout cas, les enfants sont c'est l'église de demain. Alors quand je parle de l'église de demain, ça veut dire que ce sont ceux qui vont demain la gérer. Parce qu'aujourd'hui, ils font partie de l'Église, d'accord? Ils font partie de l'Église. Mais ce sont eux qui vont gérer l'Église de demain. Et la question que je me pose, c'est et on doit tous se la poser. Quelle église allons-nous leur laisser? Quel héritage on va leur laisser? On a du travail. Et le but de travailler donc nos enfants, c'est de les construire aussi dans cette perspective que eux, demain, ils vont gérer l'église. Eux, demain, ils seront en autorité sur l'église. Là, j'ai un témoignage, ça engage que moi, mais je sais que le jour où mon mari me disait toujours, on va avoir un fils, je sais que Dieu veut nous donner un fils, et moi je voulais pas de fils. Et puis il a fallu que Dieu me parle d'une façon très forte pour que je dise, ok, je capitule. Vraiment, j'avais compris, je pense que c'était la pensée de Dieu d'avoir un fils. Et avant même que je sois enceinte, mon cri à Dieu, c'était « Seigneur, moi, si cet enfant doit naître, je suis d'accord, mais je veux qu'il naisse pour être ton serviteur, rien d'autre. » Et ça a été le cri de mon cœur. S'il doit naître, c'est pour être ton serviteur, autrement, non, c'est pas la peine. C'est juste pour me faire plaisir à moi. Non, je veux qu'il soit ton serviteur. Et j'ai à peine dit ces choses-là. Peu de temps après, j'ai su que j'étais enceinte et j'ai commencé à prier dans ce sens-là. Pour que mon enfant devienne le serviteur de Christ et rien d'autre. Rien d'autre. Alors, après qu'il le soit au travers d'une profession quelle qu'elle soit, c'est pas un problème. J'ai pas demandé à ce qu'il soit pasteur, prophète, n'importe quoi. C'est le genre de choses qui m'intéressent pas, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit serviteur de Dieu. C'est qu'il donne sa vie à Dieu, qu'il serve Christ là où il est, porte de la ville, dans un métier. Peut-être qu'il aura un ministère, j'en sais rien. C'est pas mon problème. Je cherche même pas à savoir. Mais mon problème à moi, c'est qu'il serve Christ. Là où il sera, avec le métier qu'il aura, là où il habitera, c'est tout. C'est tout ce qui m'importe. Qu'il aime Dieu et qu'il le serve. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus fort. Tout le reste, pour moi, c'est du blablabla. Jésus lui-même aime les enfants. Dans Luc 18, verset 15, il y a des gens qui envoient des gens qui apportent des nouveau-nés pour qu'ils le touchent. Alors nous, est-ce qu'on a cette position, cette attitude d'amener nos enfants à Dieu pour qu'ils les touchent? C'est dans la prière, ça. Porter nos enfants à Dieu pour qu'ils les touchent. Dieu aime nos enfants et il veut les toucher. Lui-même, il prenait du temps avec les enfants. On voit dans Luc 18 toujours, au verset 16, « Laissez venir à moi, les petits-enfants, ne les empêchez pas. » Parce que Jésus lui-même a voulu prendre du temps avec les enfants. Et nous, on doit prendre du temps avec nos enfants. C'est une façon d'investir, hein, à la fois pour leur avenir, parce que ce qu'on vit avec eux est important, et je dirais pour le royaume de Dieu. Parce que si on les construit, si on leur donne le moyen d'être des adultes saints, alors ce seront des serviteurs de Dieu, saints, entre guillemets, dans le sens où leur cœur sera préparé pour ça, leur intérieur sera préparé pour ça. Jésus connaît aussi notre enfant, nos enfants, il les a connus dès le sein, dès notre sein. Alors c'est toujours quelque chose que je partage, parce que c'est un temps formidable, la grossesse, et moi j'ai pu en parler avec mes filles, avec les femmes qui sont là dans l'église, prie avec pour ton enfant. Lis-lui la Bible. Vous savez, la Bible, elle est claire. Pas la Bible, les médecins ont fait des études et c'est prouvé que ce que vit l'enfant dans le sein de sa mère, quelque part, ça l'influence. Il ressent ce que vit sa maman. Il entend certaines choses. Donc, si on leur met des louanges, ils entendent la louange. Si on leur lit la parole de Dieu, ils entendent la parole de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais il la comprend pas. Pas besoin de la comprendre. Elle est créatrice. La parole de Dieu est créatrice. Est-ce que l'enfant entend dans le sein de sa mère? Ça l'influence. Alors moi, j'ai passé du temps. Le seul que j'ai eu, malheureusement, en étant convertie, c'est mon garçon. Les autres étaient déjà nés. Mais j'ai pu faire cette expérience avec lui. De prier pour lui, de lui lire la parole, de prophétiser même sur lui. Ça, c'est créateur de vie. Amen. Alors, bien sûr, ça sont tous des bases. Après, on va attaquer le morceau de l'éducation des enfants. On va aller dans des choses peut-être un peu plus pratiques. Mais ça, ce sont des choses quand même toujours à se rappeler. C'est intéressant de se rappeler. J'aimerais revenir sur un point, sur celui où j'ai parlé que l'enfant est une grâce de Dieu, un don de Dieu. Et j'aimerais maintenant qu'on prenne un temps de prière. Un temps de prière où on va tous se lever, on va simplement mettre notre main sur le cœur, et puis on va demander pardon à Dieu pour des choses qu'on aurait pu dire sur nos enfants. Des choses qui n'ont pas apporté la vie, mais qui quelque part les a détruits. Alors on va le faire ensemble. On n'est peut-être pas tous concernés, mais je crois que quand quelque chose se passe au milieu de nous, on doit se sentir tous concernés. Et on va tous prier dans ce sens-là. Ok ? Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, toi tu nous enseignes que avoir un enfant, c'est une grâce de ta part, c'est un don. Mais Seigneur, souvent nous ripons par nos paroles. Nous disons des choses qui sont pas justes sur nos enfants ou peut-être même sur d'autres enfants. Seigneur, alors nous voulons maintenant te demander pardon pour toutes les paroles de mépris et de mort que nous avons pu prononcer sur nos enfants ou sur d'autres. Seigneur, vraiment pardon parce que nous avons amené la mort plutôt que la vie, alors que toi tu nous demandes d'amener la vie. Seigneur, nous voulons prononcer maintenant sur ces enfants des paroles de vie, des paroles qui vont les construire, des paroles, Seigneur, qui viennent de toi. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin que tu sanctifies nos bouches dans ce domaine-là. Merci, Jésus, parce que tu nous libères aussi de toute culpabilité. Et Seigneur, nous voulons nous engager à faire attention à nos paroles, afin qu'elles soient tout le temps une occasion de vie pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.